Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes, un très grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Comme chaque samedi sur votre radio locale, nous sommes ensemble jusqu'à midi et je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Jean-Louis Fèvre. Bonjour Jean-Louis Fèvre.
Bonjour Yannick.
Alors Jean-Louis Fèvre, je vous connais depuis de nombreuses années, me semble-t-il, et je suis très enthousiaste à l'idée de vous donner la parole aujourd'hui pour évoquer vos différents ouvrages. Je voudrais d'abord qu'on vous présente un peu. Alors si je m'en tiens aux informations biographiques de la quatrième de couverture de vos livres, nous n'avons que très peu d'informations. Peintre, poète et écrivain, Jean-Louis Fèvre vit dans le Morvan. Il est notamment l'auteur de la trilogie des loups et du fou de Verdun, couronné par le prix du Morvan. C'était en 2018, me semble-t-il. Alors Jean-Louis Fèvre, moi je vais vous inviter à compléter un peu les éléments biographiques que je viens de partager au micro pour nos auditrices et auditeurs.
Oui, je suis originaire de Pont-Aubert.
Donc petit village de Lyon à quelques kilomètres d'Avallon.
Exactement. Je suis fils de paysan. Après l'école communale de Pont-Aubert, j'ai poursuivi mes études au collège, puis au lycée d'Avallon. Et c'est là que j'ai été ébloui par les grands auteurs, les grands poètes, les grands romanciers de la littérature. Et c'est là que j'ai eu l'envie d'écrire.
Et cette envie d'écrire, elle se matérialise avec un certain nombre d'ouvrages que vous portez avec vous dans les salons du livre. Vous êtes en auto-édition, Jean-Louis Fèvre.
Oui, je suis en auto-édition. C'est un éditeur plein champ qui me fait les livres et moi je suis chargé de les distribuer.
Alors, pourquoi ne pas soumettre vos textes si riches que je lis avec un immense bonheur et que j'aimerais que nos auditrices et auditeurs lisent également avec autant de plaisir que fut le mien lors des lectures de vos livres. Pourquoi ne pas proposer vos ouvrages à une maison d'édition ? Vous dont l'écriture, pardonnez-moi Jean-Louis Fèvre, est si belle, si ciselée dans la nature, dans la poésie, pourquoi tant de modestie ?
Merci Yannick, mais j'ai fait un essai auprès d'une maison d'édition, mais ça n'a pas marché, donc...
Oui, mais elles sont nombreuses, les maisons d'édition.
Oui, oui.
À l'époque, c'était les éditions de l'Armançon, aujourd'hui disparues, malheureusement.
Exactement.
Mais il y a des maisons d'édition à diffusion nationale qui pourraient accueillir ces textes.
Peut-être que je vais essayer. Je vais tenter.
Alors, Jean-Louis Fèvre, votre dernier recueil, c'est un recueil de nouvelles, 6 nouvelles, intitulées « Poussière d'enfance et autres nouvelles ». Je voudrais qu'on s'arrête d'abord sur la nouvelle qui donne son titre au recueil, à savoir « Poussière d'enfance ». Je me demandais quelle était la part personnelle, subjective, la part émotionnelle de l'enfant Jean-Louis Fèvre dans l'ensemble à la fois de ses nouvelles et peut-être aussi de ses romans. Il est beaucoup question des enfants. Vous les connaissez bien, les enfants, parce que vous les avez côtoyés de par votre métier d'instituteur. Vous avez été en poste, notamment à Vézelay.
Et
Et Jean-Louis Fèvre, vous montrez souvent, alors soit des enfants de 10 ans, 12 ans, qui découvrent la beauté de la nature, une sorte de feu d'artifice, de sensualité olfactive, la beauté de la nature qui est un spectacle paradisiaque. Et puis des enfants qui souvent sont meurtris, brisés, soit des orphelins, soit des enfants qui tout d'un coup sont confrontés à la réalité de la maladie d'un grand-père, et puis plus douloureusement confrontés à la mort. Alors quelle est la part de souvenir de l'enfant Jean-Louis Fèvre dans ces textes ?
Oui, alors pour revenir au recueil de nouvelles, Poussière d'enfance, la dernière, Poussière d'enfance, donc, est très personnelle. C'est le souvenir de mon grand-père. Et ça m'a marqué, ce souvenir, parce que ce grand-père, qui était forgeron, écrivait, notait sur un cahier des choses. Et ça m'avait touché dans le sens où je me demandais, un homme si robuste et si manuel pouvait arriver à écrire.
Alors, le grand-père dans la nouvelle Poussière d'enfance, c'est un homme effectivement très robuste, sorte de géant aux yeux de l'enfant qui admire ce grand-père. Un enfant qui a été épargné en fait par le malheur et qui, à l'âge de 12 ans, apprend devant un grand-père alité qu'il est malade. D'ailleurs, il est question des mots sans couleur du docteur. C'est quelque chose de très personnel aussi ?
Oui.
La maladie du grand-père, vous l'avez vécu ?
Bien sûr, je l'ai vécu et je l'ai vécu douloureusement parce que j'étais très jeune lorsqu'il est décédé, et ça m'a beaucoup marqué, cette perte du grand-père que j'admirais.
Et donc vous avez été, comme le petit garçon de la nouvelle, l'héritier de ce cahier noir qui était griffonné de l'écriture du grand-père. Vous les avez lus, ces textes ?
J'ai des cahiers qui me restent de lui. Et en fait, je ne savais pas qu'il avait écrit autant de choses.
Mais c'était de la fiction ou était-ce un journal intime ?
C'était un journal intime et il notait dans ses cahiers les événements de la famille, les événements du village et aussi les choses anodines, le temps qu'il fait, des choses comme ça.
Et vous n'avez pas tenté de l'éditer ? Ça a un intérêt ou pas ?
Si, on m'a dit que ça serait bien que ça soit réuni en livre.
Mais les écrits de votre grand-père couvrent les années 40, 50 ?
50, voilà. Donc c'est les années 49, 50, 55, jusqu'à 55.
Et vous avez mis en exergue une phrase que vous avez fait paraître dans Parloir des gouffres. « Ô grand-père, tu es déjà loin de ta mort. Suis-je dans le feuillage de l'arbre qui pousse en toi ?»
Oui, parce que j'ai écrit un recueil de phrases, d'aphorismes, qui s'appelle Parloir des gouffres. Et donc, cet aphorisme, là, cette pensée, fait partie du Parloir des gouffres que j'ai écrit au début.
L'enfance est très présente dans Poussière d'enfance et autres nouvelles, et pour cause, vu le titre, Poussière d'enfance. Finalement, si l'on veut dépoussiérer notre enfance, on tombe dans la nostalgie. Êtes-vous nostalgique, Jean-Louis Fèvre ?
Peut-être un peu, quand même. Peut-être un peu, mais j'évite. Et ces souvenirs que j'ai, en fait, c'est des souvenirs que je traite avec bonheur. et non pas avec tristesse et nostalgie.
Oui, parce que vous savez effectivement confronter ces enfants qui ont une cassure, qui n'ont plus de parents, vous savez les confronter à la magie et aux rencontres de personnages qui apportent de la couleur du rêve, parce que le rêve a énormément d'importance dans vos textes, hein. Que ce soit dans la trilogie des loups, il y a toujours des rêves, que ce soit la bohémienne, bon, il y a des cauchemars aussi, mais le monde onirique est extrêmement bien illustré dans vos textes.
Oui, le rêve prend une place importante dans mes livres. C'est un voyage dans l'onirisme qui me plaît beaucoup.
Alors c'est aussi en lien peut-être avec la peinture qui vous occupe ?
Oui, bien sûr. Et la peinture est venue, c'est la poésie en fait qui m'a amené à la peinture. Voilà. Donc j'écrivais des petits poèmes, et un jour je me suis dit peut-être peut-on l'exprimer autrement, cette poésie. Et donc, c'est la peinture qui est venue naturellement.
En exergue à votre roman La Trilogie des loups, vous citez Vincent Van Gogh. J'ai cherché à exprimer avec le rouge et le vert les terribles passions humaines.
Oui. Parce que dans Le Meneur de loups, les passions humaines s'expriment avec force et aussi avec un peu horrible.
Je reviens sur la couleur, parce qu'en fait, il est souvent... Le violet est assez bien représenté. Par exemple, il est question d'une colère rentrée, violette. Et même les vents, parfois, sont violets.
Oui, le vent. Je donne une couleur au vent. C'est très important. Parce que le vent, également, prend une place importante dans mes romans. Parce que le vent agit, je pense, sur le destin des humains.
Vous qualifiez les vents aussi de démons éoliens.
Oui.
Donc ils viennent comme ça, vous croyez influencer le caractère, les comportements des humains, tantôt peut-être de l'agacement, de la révolte.
Oui, parce que la rencontre de la gitane, donc, dans ce livre, avec le fermier, c'est un concours de circonstances. Il y a la chaleur, le soleil qui éblouit, et bien sûr aussi le fermier qui lui jette des graviers, des cailloux au visage. Et c'est tout ça qui fait que la gitane perd pied et ne respecte plus...
Le pacte tribal, en fait, tribal. Des gitans, c'est
voilà,
ça.
Voilà, le pacte tribal.
D'abord, elle brûle les paniers au milieu de la cour de cette ferme où elle était venue les vendre, où donc elle est rejetée.
Exactement.
Et puis elle perd en plus la médaille qu'elle porte autour du cou, voilà. Médaille qui en fait symbolise son appartenance à la communauté des Romanichels, des Bohémiens.
Exactement. Donc elle fait une double erreur, dans c'est la colère qu'elle ne maîtrise plus, du fait du soleil, de l'attitude, des insultes du fermier. Alors ce soleil éblouissant me fait penser à Camus dans L'Étranger, sur la plage, donc le soleil qui se reflète sur la lame et qui éblouit
Meursault
et qui appuie sur le revolver. Donc le temps qu'il fait agit sur les comportements humains.
Le temps agit aussi sur la chronologie de notre émission, Jean-Louis Fèvre. On marque un premier temps de pause musicale et nous nous retrouvons d'ici quelques minutes. Je rappelle que c'est Wagon Livre, votre émission littéraire. C'est Jean-Louis Fèvre qui nous accompagne et nous nous retrouvons dans une poignée de minutes.
Le vent triste souffle dans le parc, comme dans un livre que je lus enfant, où une écolière perdue était à garde devant. Il va casser peut-être le tulipier, il fait voir le dessous des feuilles blancs, du vernis du Japon qu'il semble essuyer le vent. Le baromètre est descendu subitement, peut-être que ça va être un ouragan. Il ne peut pas pleuvoir, mais on entend le vent. Dans les livres de prix, monsieur et madame Darvan reviendraient en pressant le pas chez eux, vers un château tout bleu, malgré le mauvais temps. De ma tête au manoir moisissant, où devaient se passer d'étranges adultères, en des temps tristes en Angleterre. Le vent sortait de ma tête, gentilles écolières qui jouiez à cache-cache dans la clairière, et reveniez vers le grenier sombre à cause du grand vent. Sortez de ma tête, vieux marquis des villes, qui dans des maisons pluvieuses au lisier Virgile, par des fauteuils à oreillettes, par des temps de vin. Tête ma douce tristesse, et va-t'en vers le coteau fané, va-t'en, ou va sur un air un peu Chateaubriand, le vent.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Jean-Louis Fèvre, juste avant la pause musicale, vous parliez du vent, de l'influence des éléments naturels, sans doute, sur les comportements des humains. Nous parlions de peinture parce que vous êtes également peintre. Dans ce petit village du Morvan où vous vivez une retraite paisible et bien occupée, Aligny en Morvan. Et peut-être que pour les auditrices et auditeurs, Aligny en Morvan fait penser à un écrivain qui y a passé un petit bout de sa jeunesse quand même.
Oui, tout à fait. Jean Genet, qui a vécu les 13 premières années de sa vie à Aligny. Il a été abandonné par sa mère à Paris. Et à 6 mois, il est arrivé dans le Morvan chez des parents nourriciers, Charles et Eugénie Régnier.
Où il a passé une enfance heureuse, et paysanne d'ailleurs.
Il a passé une enfance heureuse, paysanne, mais il a été quand même, il a subi des humiliations. Alors je peux raconter une petite anecdote. Le maître d'école avait demandé aux élèves de parler, dans une rédaction, de parler de leur maison, de raconter leur maison. Le texte de Genet, de Jean Genet, était très beau, et le maître a lu la rédaction à la classe. Mais les enfants, tout de suite, ont dit à Jean Genet, ta maison, c'est pas ta maison. Tes parents, ce sont pas tes parents. Et Genet, enfant sensible, a reçu ça comme une humiliation qui a marqué sa vie. Parce qu'il s'est senti minoritaire parmi les autres. Et en fait, c'est pour ça que plus tard, il a défendu les minorités.
Oui, alors il
les
a
Black
eu des,
Panthers,
exact,
les
des prises de position ouais, voilà. pro-palestiniennes. Mais, il a été voleur, il a connu les bagnes d'enfants. Il y avait une révolte contre la société, son théâtre, Le Monde. Révolte contre la guerre d'Algérie, enfin le scandale des paravents à l'Odéon.
Exactement, son théâtre, oui. Voilà.
Alors, arrêtons de parler de Jean Genet, à moins que vous vouliez encore dire un petit mot sur Jean Genet.
Un petit mot. Sur sa maison, il y a une plaque que François Mitterrand a dévoilée en 1985, je crois. J'étais présent, parce que j'ai suivi Jean Genet, l'actualité de Jean Genet avec ferveur. Et cette plaque, on l'a enlevée parce qu'actuellement, la commune fait une maison de retraite dans la maison où a vécu Jean Genet. Mais la plaque sera à nouveau posée sur la maison, j'y tiens.
Et donc c'est à Aligny, en Morvan, où vous résidez, où vous écrivez, où vous peignez, où vous rêvez aussi comme vos personnages.
Oui, tout à fait.
Alors, puisque nous avons parlé d'un enfant de l'assistance publique, en évoquant Jean Genet, donc placé dans une famille de paysans à Aligny, en Morvan, j'aimerais qu'on s'arrête sur une autre nouvelle intitulée sobrement « L'orphelin ». Louis, qui vit encore avec un grand-père, qui sont dans le deuil, puisque cet enfant a perdu sa mère et son père dans un terrible accident de calèche qui a heurté une pierre. Et les parents sont morts. Vous écrivez « Deux cœurs, un jeune et un vieux saignent en même temps ». Et il y a là encore une enfance pleine de paillettes et de découvertes, parce que dans les greniers, dans les mâles des greniers, les enfants trouvent peut-être le début de leur bonheur et le début d'une nouvelle vie. Et là, c'est extrêmement optimiste, Jean-Louis Fèvre.
Oui, l'orphelin découvre donc dans le grenier un habit de clown. Et cet habit de clown, pour lui, c'est quelque chose qui va le sauver. Parce que il revêt cet habit de clown dans le grenier et il fait lui-même une sorte de pantomime avec cet habit qu'il va garder, mais qu'il va pas dévoiler. Il n'en parlera pas à son grand-père.
Oui, parce que éventer le secret, c'est peut-être faire disparaître ce plaisir. Donc, c'est aussi l'enfant qui, quelque part, découvre, j'allais dire gentiment, l'interdit, la cachette, la clandestinité, d'une certaine manière.
Tout à fait. C'est quelque part son secret, cet habit de clown, et il ne veut absolument pas en parler. Et il le garde, il le gardera tout le temps. Et un jour, il s'en servira.
Alors, il y a cette phrase, justement, l'enfant découvrant avec bonheur, dans la malle du grenier, cet habit de clown de comédie dit « Je suis un autre, je suis mille autres, je suis un clown de comédie. » Et « Je suis un autre », pour moi, tout de suite, je pense à Rimbaud. « Je est un autre ».
Absolument.
Et j'imagine que là, la référence est implicite et volontaire. « Je est un autre ».
Oui, parce que Rimbaud, pour moi, c'était un poète qui m'a suivi tout le temps. Depuis, j'ai lu La saison en enfer, Les illuminations, à 18 ans, et ça m'a marqué.
Et je peux comprendre que Rimbaud vous ait tant séduit et que vous en soyez un lecteur assidu encore aujourd'hui, parce que c'est un personnage de l'errance. Or, il y a beaucoup d'errants dans les nouvelles, mais aussi que ce soit la trilogie des loups. Hein, ces bohémiens vont de village en village et ils ne traversent pas que le Morvan. Ils vont aussi en pèlerinage au Sainte-Marie de la Mer. Hein. Toujours chez vous, ces contrastes entre finalement Méditerranée, la mer, le maritime, les monts un peu noirs du Morvan, la canicule, la froidure de l'hiver. Je dirais qu'il y a une écriture de grands contrastes.
Oui.
Pour notre plus grand bonheur, d'ailleurs.
Tout à fait. Et l'errance, pour moi, est très importante parce que c'est Romain Michel que j'ai observé quand j'étais enfant. J'aurais voulu partir avec eux parce que c'est des errants, mais des hommes libres qui s'accaparent la nature, qui s'accaparent... les étoiles, les saisons. Et l'errance, pour moi, c'est la liberté.
D'ailleurs, quand les bohémiens arrivent, moi, je pense aussi au grand Mône d'Alain Fournier. Où Mône, là encore, l'arrivée des saltimbanques, et là aussi, c'est le début d'une histoire d'amour. Ces errants qui arrivent sans prévenir... crée le tumulte, crée la surprise et donne tout d'un coup du sens à une existence nouvelle.
Voilà.
C'est un peu cela finalement
oui.
Pour un grand nombre de vos personnages. Par exemple, le petit garçon dans la nouvelle intitulée Les chevaux de bois, les saltimbanques arrivent, les forains, ça anime le village. Même le joueur d'orgue de Barbarie, il arrive comme ça, bon, il est sollicité, il arrive à la fête et c'est lui qui va... sans doute motiver le petit garçon orphelin à partir sur les chemins. Et bon, malheureusement, la fin est un peu surprenante. Mais... Et puis, il y a tout le monde des gitans dans la trilogie des loups, ces gitans que vous avez vus donc défiler dans votre jeunesse, dans les petits villages de Lyon ou du Morvan.
Oui, ils traversaient avec leurs roulottes tirées par des chevaux. Ils traversaient les villages et ils s'arrêtaient sur les pâtis communaux où là, ils faisaient un feu. Ils tressaient des paniers et les femmes allaient dans le village pour vendre les paniers. Mais je me souviens que j'allais les voir autour de leur feu, là. Je m'approchais un peu d'eux et j'avais, je ne sais pas pourquoi, je me sentais presque comme eux.
Alors vous êtes-vous rêvé gitan?
Je ne sais pas pourquoi je parle des gitans avec enthousiasme et avec précision quand même. Je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être dans une vie antérieure, j'étais gitan.
Ces hommes de nulle part, comme vous les appelez dans
oui.
La trilogie des loups. Et dans la trilogie, vous écrivez « Le voyage est la raison de vivre du peuple gitan. Par tous les temps, sous toutes les latitudes, ils se déplacent ainsi depuis des millénaires avec une conscience aiguë de la liberté. » Et vous montrez aussi à chaque fois le mauvais accueil qui est fait par les Morvandiaux, qui ont beaucoup de suspicions à l'égard de ces Romain Michel, de ces manouches, ces bohémiens. Je vous cite, considérés comme des voleurs de poules, des jeteurs de sorts. On dit qu'ils apportent avec eux le malheur et l'orage. On raconte qu'ils pactisent avec le diable et les forces occultes.
Oui, parce que ces gens-là, qui ne sont pas comme les autres, bien sûr, les paysans, les habitants sédentaires les accueillaient souvent très mal. Parce que on disait que c'était des voleurs de poules, mais pas, bon, quelquefois peut-être, mais c'était pas bien méchant de voler une poule qui est garée.
Alors, on va marquer une nouvelle pause musicale. Ensuite, je vous demanderai peut-être de nous lire un petit passage sur le monde des gitans. Et puis, je voudrais qu'on parle de la trilogie des loups parce que On pourrait aussi mettre dans notre émission « En aurons-nous le temps ?» un coup de projecteur sur votre très beau roman qui a obtenu donc le prix du Morvan, Émile Perruchot. C'était en 2018, « Le fou de Verdun ». On marque une pause musicale et nous nous retrouvons d'ici quelques minutes. C'est Jean-Louis Fèvre qui nous accompagne en cette fin de matinée à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. A tout de suite.
Cœur de loup, pas le temps tout lui dire, pas le temps tout lui dire, juste assez pour tenter la satire qu'elle sent que je veux lui plaire. Sous le fil de l'emballage, la lubie de faux filet, la folie de rester sage si elle veut pas l'embrasser. Et quand d'un coup d'elle se déplume, mon œil lui fait de l'œil. Même ululée sous la lune ne me fait pas peur, pourvu qu'elle veille. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Pas besoin de beaucoup, mais pas de peu non plus. Par le biais d'un billet fou, lui faire savoir que je n'en peux plus. C'est le cas du kamikaze, c'est l'ABC du condamné. Le légionnaire qui veut l'avantage des voyages sans s'engager. Hey, les chiffres, les skis, sous mes bordées d'amour. Je suppose qu'elle suppose que je l'aimerai toujours. Le doigt sur l'aventure, le pied dans l'inventaire. Même si l'affaire n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser. La victime est si belle et le crime est si gai.
Temps de mentir, ni de quitter la scène. Yep, elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter.
La victime est si belle, et le crime est si gai.
Pas le temps de tout lui dire, ni de quitter la scène. Yep, elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Pas le temps de tout lui dire,
de loup,
ni de
lit,
quitter la scène. Elle aura beau rougir de toute façon,
oh là là,
il faut qu'elle m'aime. Pas le temps de tout lui dire,
de loup,
ni de quitter la scène. Elle aura beau rougir de toute façon,
il
faut qu'elle m'aime. Pas le temps de tout lui
dire,
ni de quitter la scène. Elle aura beau rougir de toute façon, il faut qu'elle m'aime.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
C'est Jean-Louis Fèvre qui nous accompagne à bord de votre émission littéraire. Je rappelle que le titre de son dernier ouvrage est « Poussière d'enfance et autres nouvelles » à l'atelier Plainchamp. Alors comment fait-on, Jean-Louis Fèvre, quand on habite en Bretagne, en Alsace ou dans le sud de la France pour se procurer vos livres ?
Ben non.
Comment fait-on ?
C'est commandé chez moi.
Voilà. Alors, comment
sur commande, j'envoie Franco de Port les livres.
Jean-Louis Fèvre, donc via un moteur de recherche, on vous trouve facilement ?
Oui, sur Internet, on trouve en tapant les livres de Jean-Louis Fèvre, les titres.
Les titres, Jean-Louis Fèvre, et on vous trouve. Et puis, il y aura aussi notre émission mise en podcast. On rappellera les références pour vous contacter. Alors, juste avant la pause musicale, nous parlions de ces extraordinaires bohémiens, gitans, manouches, ce peuple, ces hommes de nulle part qui sont au cœur donc de la trilogie des loups. Et Jean-Louis Fèvre, je vous invite à nous lire un extrait justement de ce roman et qui concerne le monde des gitans.
Avec plaisir. Après une course effrénée, les deux amants, à bout de souffle, se laissent tomber dans l'herbe haute, bras écartés. Les yeux près des nuages, ils écoutent les battements de leur cœur, l'haleine de leur poitrine. Des oiseaux insouciants passent au-dessus d'eux, du temps irisé fuit avec la brise, entre herbe et ciel, entre lumière et peau. Silencieux, ils roulent dans les vagues vertes, ivres du désir de leur corps. Ils n'ont pas besoin de parler. Leur amour repousse les obstacles bien au-delà de l'horizon. Ils s'enlacent éperdument. Louis le premier rompt le silence. Il dit « Zelda, raconte-moi ton pays. » La gitane fronce les sourcils, plisse les paupières réfléchies. Je n'ai pas de pays, ou plutôt, si, mon pays, c'est la terre entière. C'est le soleil et la pluie, le vent et la neige, le ciel et les étoiles, l'aube et le crépuscule, les fruits et les fleurs. Tu sais, ça me suffit. Les saisons sont les plus belles contrées du monde. Et puis, il y a toutes les bêtes, si intelligentes, si fières et si fidèles. Louis s'exclame, « Oh, comme tu as raison, c'est sûrement cela la vraie vie. » Zelda égrène entre ses doigts fins une quenouille d'herbe fleurie. Louis revient à sa première idée. « Mais il y a bien un pays dans lequel vous, les gitans, ou séjourner plus longtemps qu'ailleurs. Oui, en Espagne, au camp de Murcie, c'est notre lieu de ralliement. Il y a aussi notre grand pèlerinage au Sainte-Marie de la Mer. Parle-moi de l'Espagne. Le soleil est né là-bas. Nos roulottes sont les enfants du soleil qui nous transportent vers la liberté. »
Merci Jean-Louis Fèvre. Donc c'est page 54-55. Je suis très heureux parce que moi-même je l'avais sélectionné ce passage. Donc vous voyez, nous sommes en harmonie.
Très bien.
Il est question de la vraie vie, justement, la vraie vie. Vous montrez aussi, alors je dirais que les grands propriétaires paysans morvandiaux n'ont pas toujours les bons rôles. Ils sont présentés comme cruels ou violeurs ou abusants de ces pauvres jeunes filles de ferme qui se retrouvent enceintes et qu'on rejette comme des filles mères avec un profond mépris. Et puis il y a ces bohémiens, des gens simples, personnages de l'errance, qui eux incarnent la noblesse d'âme.
Oui.
Et qui sont démunis, qui vivent chichement.
Oui, mais pas tous les propriétaires terriens sont ainsi, heureusement. Mais c'est vrai que j'ai une préférence pour les errants.
Alors les errants, bien évidemment, ils vivent en harmonie avec la nature. La nature aussi leur offre alimentation, nourriture. Et justement, il y a... Alors, dans la trilogie des loups, c'est extrêmement visible, toujours ce contraste entre les êtres primaires, bruts, porteurs de folie, anormaux, qui ont parfois une anomalie, mais liée à une malédiction, liée à leur naissance, des êtres qui incarnent la destruction et la mort. C'est le monde des chasseurs aussi, parfois, que vous présentez. On sent qu'il n'y a pas forcément de grande sympathie pour les chasseurs.
Non.
Les tueurs d'animaux, vous n'aimez pas. Hein. Et puis à côté de cela, Jean-Louis Fèvre, il y a les êtres porteurs de vie, rayonnants, délicats, sensibles et amoureux de la beauté sous toutes ses formes. Et dans la trilogie, vous écrivez ceci. À propos d'un personnage, justement, je crois que c'est celui qui veut peut-être tuer le loup apprivoisé de Zelda ou de Zora. Mais l'être ignoble ne sait pas apprécier le subtil frisolis des feuilles. Il ne sait pas suivre l'extravagance des vents, écouter le conciliabule des végétaux, goûter la lumière verte qui laisse entrevoir un ailleurs. Alors la vraie vie, Jean-Louis Fèvre, c'est être en harmonie en permanence avec la nature ?
Absolument. Cette nature qui, d'où on vient d'ailleurs, et qu'il faut absolument préserver, parce que sans elle, on est perdu. La civilisation va disparaître si la nature n'est pas protégée.
Alors, dans l'esprit de la montagne, là, on a quitté le Morvan, mais on est dans une montagne bien vivante, une vieille dame animée par un esprit que les montagnards appellent, avec crainte et avec respect, la bête.
Voilà.
Alors, l'esprit de la montagne, là, on retrouve aussi un personnage toujours... C'est amusant combien les personnages, je dirais dissonants, ermites, sorciers, sont finalement ceux qui trouvent grâce à vos yeux.
Oui, parce que la Tiennette, là, cette ermite qui va se réfugier dans une cabane dans la montagne, elle a été déçue. D'ailleurs, je raconte dans la deuxième partie... sa vie d'enfant, où elle a subi des choses qui l'ont déçue, et finalement elle va se retirer dans la montagne pour aller défendre les bêtes de la montagne, pour défendre la nature, parce qu'elle se sent en harmonie avec cette nature.
C'est très drôle parce que dans son abri, elle a inventé une sorte d'instrument à vent dans lequel elle souffle pour effrayer les animaux, pour qu'ils échappent aux appétits des chasseurs. Personnage inquiétant et fascinant à la fois. Et vous aimez bien ses ambiguïtés.
Absolument, oui. Donc son porte-voix qu'elle a fabriqué pour effrayer les... pour faire sauver les chamois devant les chasseurs. Et cette ermite va finir mal parce que elle va trop s'engager à défendre les bêtes, et finalement les chasseurs auront raison d'elle.
Oui.
Puisqu'elle va se jeter...
Elle se jette dans le vide
avec sa camisole blanche, là, un peu comme un chamois, comme le chamois blanc.
Alors, dans l'esprit de la montagne, il est question effectivement d'un roi des chamois. Vous citez d'ailleurs une légende slovène au début du roman C'est L'esprit ça. De la montagne. Un chamois blanc... que tout chasseur voudrait abattre, et qui est unique en plus.
Oui.
Là, vous partez en croisade contre le monde de la chasse,
oui,
qui finalement n'aime pas la magie, quoi.
Oui. Et ce chamois, justement, parce qu'il est rare, c'est un chamois albinos, donc chamois blanc, qui est très rare et que les chasseurs rêvent tous d'abattre pour le trophée.
Revenons à l'univers des gitans, revenons à la trilogie des loups. On va laisser de côté un peu les chamois, quand bien même ils sont sublimes et peuplent merveilleusement les montagnes. Et j'aimerais qu'on revienne un peu sur les loups. La trilogie des loups, il y a donc un loup apprivoisé qui accompagne une des gitanes dans le roman. Il s'appelle Go, mais il y a aussi une guenon attachée à un arbre. C'est vraiment un univers très, très particulier. Voilà. Et Finalement, dans la trilogie des loups, vous êtes documenté un peu sur cette importance de cet animal dans la culture gitane ou c'est une invention de l'esprit de Jean-Louis Fèvre?
Oui, c'est une invention de l'esprit.
Ouais. Et alors, c'est amusant parce que à un moment, Go, dans la roulotte, c'est l'hiver, il écoute le silence. À un moment, il y a un personnage qui écoute la nuit. Et vous, Jean-Louis Fèvre, à Aligny, en Morvan, qu'est-ce que vous écoutez?
J'écoute la nature, qui m'entoure. Et je me sens bien dans ce Morvan qui m'inspire énormément. Ce Morvan qui est à la fois rude, mystérieux, attachant et quelquefois dur, mais... toujours avec les saisons toujours magnifiques.
Alors il est vrai que vous avez une écriture ciselée dans la poésie. D'ailleurs, vous dénoncez certains personnages odieux ou dont l'existence est plate. Vous parlez d'eux, je vous cite, comme des personnages falots, égoïstes, qui mènent une existence morne, tout à fait éloignée du monde poétique. À l'heure actuelle, Jean-Louis Fèvre, dans votre atelier, avec votre épouse à Aligny-en-Morvan, de quoi est constitué votre monde poétique?
Ah là, c'est la poésie pour moi, depuis toujours, est essentielle. Moi, je ne pourrais pas vivre sans la poésie, sans l'écriture, sans la peinture. C'est en quelque sorte des raisons de vivre.
Quel est le prochain projet d'écriture? Ensuite, nous marquerons une nouvelle pause musicale et puis on parlera un petit peu du Foot Verdun. Prochain projet d'écriture ou projet d'écriture en cours, Jean-Louis Fèvre?
J'ai un nouveau roman qui vient de paraître il y a quelques jours. Il est encore tout chaud. Alors, en un mot, je suis sorti du Morvan une nouvelle fois. C'est l'histoire d'une famille modeste sous le Second Empire. Alors, ça se passe dans les Ardennes. Et pourquoi ça se passe dans les Ardennes et pourquoi sous le Second Empire? C'est à cause de Rimbaud.
Et oui, parce que quand vous avez parlé des Ardennes, je pensais à Charleville-Mézières et je pensais à Rimbaud, effectivement.
Oui. Ça commence comme ça, mais rapidement, c'est une classe dans les années 50, il y a un maître d'école qui dit à un de ses élèves, tu vas me réciter la poésie qu'on apprend en ce moment, Le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud. Bon, l'enfant récite, c'est un trou de verdure, etc. Le maître dit, c'est très bien. Et puis d'un seul coup, le maître leur dit à ses élèves, eh bien, si vous voulez, je vais vous raconter. Alors, il dit, qu'est-ce qui est arrivé à ce dormeur du Val? Bon, les élèves disent, il a été tué à la guerre, puisqu'il a deux trous rouges au côté droit. Et le maître dit, oui, c'est exact, il a été tué à la guerre. Et si vous voulez, je vais vous raconter l'histoire de ce soldat. Et comment il commence un récit, l'histoire de ce soldat.
Voilà. Et en plus... Juste après la pause musicale, j'aimerais qu'on évoque le Foot Verdun qui vous a vu décerner enfin, parce que déjà au moment de la trilogie des loups, j'espérais que le prix du Morvan vous serait donné. Il avait été attribué à un autre auteur de talent, mais j'avais été très déçu et j'étais vraiment réjoui quand j'ai appris que vous aviez eu le prix du Morvan Émile Perruchot pour le Foot Verdun que nous aborderons juste après la pause musicale avec notre invité Jean-Louis Fèvre.
Se cabe lumière du soir, derrière le brouillard, tes yeux noirs étaient
et les spots font la rétine colorée. Tu ondules et je sais que les gens aiment te regarder. Tu souris à pleines dents, moi je croque dans ton cou mouillé. On tangue comme le mât d'un bateau dans la houle. Nos langues se bousculent comme les gens dans la foule. Avance, je joue à l'ombre qui recule. On danse, j'aime tes mains courant sous mon pull.
Et
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Le temps passe très vite, Jean-Louis Fèvre, en votre compagnie. Il y a beaucoup de livres, on ne peut pas rentrer plus en détail, mais c'est, à mon avis, l'occasion d'autres rendez-vous devant le micro avec vous, si vous le souhaitez.
Enfin, bien sûr.
Personnellement, cela me fera grand plaisir. Le Fou de Verdun. Le Fou de Verdun, vous revenez sur la Grande Guerre. Et d'ailleurs, vous avez dédié ce roman à mes grands-parents, à mes ancêtres. Vous vous rappelez des souvenirs de combattants ?
Oui, ils m'ont raconté les choses de la guerre, mais sans en parler vraiment. C'était des allusions. Et ce Fou de Verdun, je vais vous expliquer comment l'idée m'est venue. Sur la route qui mène à Château-Chinon, il y a une pancarte, un panneau routier où il y a marqué le Fou de Verdun. Et la première fois que j'ai vu cette pancarte, je me suis interrogé, que vient faire Verdun dans la Nièvre ? Alors, je me suis dit tout de suite, oh ben, c'est un soldat qui a fait la bataille de Verdun, qui est rentré. Mentalement atteint, mentalement malade. Et pas du tout. C'est pas du tout ça. Mais je ne vais pas le dévoiler parce que c'est le suspense du livre.
Oui, je dirais qu'il y a une polysémie dans le titre.
Exactement, hein, c'est tout à fait la polysémie.
Le Fou de Verdun. Voilà. En tout cas, c'est le retour dans le Morvan en 1919 d'un jeune combattant qui revient à Lavaux de Frétois dans son village, qui retrouve son épouse, qui l'a attendue fidèlement, avec amour, dans ce petit village du Morvan. Elle se prénomme Solange. Et en fait, j'emprunte une phrase de votre roman, votre jeune soldat rendu à la vie civile en 1919, et Dieu sait si ça a été difficile pour ces poilus de revenir à la vie civile. Il se prénomme Lucien. Lucien est rentré physiquement de la guerre, mais son âme a péri sur le champ de bataille. Voilà une phrase qui résume très bien le roman.
Oui, parce qu'en fait, ils ont vécu des horreurs. Dans les tranchées, c'était les obus qui tombait sans arrêt. C'était la boue, c'était les poux, c'était...
Les gaz, les rats, le vacarme, la peur.
Comment peut-on sortir de cet enfer ?
Excellent roman qui devrait être étudié par les professeurs de français en classe de 3e, puisqu'en 3e, le programme d'histoire aborde les tensions internationales à la veille de la guerre et la Grande Guerre. Dans Le Fou de Verdun, il y a tout. Il y a l'épopée, il y a le tragique, le dramatique, il y a de l'amour, il y a du psychologique. Enfin, c'est la finesse de la plume de Jean-Louis Fèvre que j'admire. Et que je suis immensément heureux d'avoir accueilli une première fois dans Wagon Livre, parce qu'on est au terme de l'émission, Jean-Louis. Et j'espère qu'en 2022, vous reviendrez devant notre micro pour aborder d'autres de vos textes, ou plus en détail, si vous le souhaitez.
Merci Yannick, et je reviendrai avec grand, grand plaisir.
Et je rappelle donc que si vous avez manqué le début de cette émission, vous la retrouvez en podcast. Navré Jean-Louis, sur France Culture, on parle de balado-diffusion, c'est plus français, c'est plus élégant, plus poétique peut-être, balado-diffusion, l'idée de balade, ça rejoint un peu le voyage, les bagages de vos errants. En tout cas, retrouvez Jean-Louis Fèvre en balado-diffusion sur yannickpetit.fr. Merci Jean-Louis Fèvre, bonne fin d'année. Merci d'avoir été devant le micro de Wagon Livre ce matin. Je vous donne rendez-vous en 2022.
Très bien, merci beaucoup, avec grand plaisir.
Et puis, samedi prochain, 18 décembre, je serai avec le créateur et l'animateur de la maison d'édition Temps Impossible, Dominique Vallet, qui viendra accompagné de quelques-uns de ses auteurs, alors un dessinateur Joël, et puis une femme que vous connaissez, Jean-Louis Fèvre, c'est la délicieuse et pétillante Sandra Amani, qui sera également devant notre micro. Merci d'avoir été à l'écoute de Wagon Livre. Bon congé de fin de semaine, parce que je déteste le mot week-end, Jean-Louis. Donc d'accord, je dis congé de fin de semaine. C'est très plus bien français, ça se comprend. Bon congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir et à samedi prochain.